C'est toujours un plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est un plaisir de plonger le regard dans la parole de Dieu. Et j'ai hâte de lire l'évangile de Jean avec vous. Donc, on est dans l'évangile de Jean, chapitre 2. C'est le premier miracle que Jésus fait dans son ministère. Et pour ceux qui s'identifie comme un Bordelais, c'est certainement votre miracle préféré. L'évangile de Jean, chapitre 2, et je vais lire du verset 1 au verset 12. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, en contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le meunier et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Prions. Dieu notre Père, merci pour ce passage, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ce passage, illumine l'intelligence de notre cœur, afin que nous puissions vraiment saisir la joie que Jésus nous offre ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Le mariage est une période de joie pour tous. Les amis, les familles sont invités. Le mariage, c'est un don que Dieu nous a fait. Ils ne feront qu'un, dit les premières pages de la Bible. Mais pour ceux qui organisent la célébration du mariage, j'imagine que c'est un peu stressant. Vous voulez que tout se passe bien. Trouver le bon endroit, un château magnifique avec des vignes, des vignères. Vous voulez que tout se passe bien, assurer vue de la présence d'un photographe, organiser le service de traiteur, la décoration, gérer la liste des invités et ainsi de suite. Vous voulez que ce soit un moment parfait dont on se souviendra. Et pourquoi aimons-nous organiser des fêtes? C'est parce que nous voulons être heureux. Nous voulons être heureux, nous voulons que le bonheur soit profond et durable. Et c'est ça que nous allons regarder, c'est ça que nous allons voir ce matin dans ce passage. Ce mariage se déroule à l'époque de Jésus et il aurait été culturellement différentes choses, mais il y a encore beaucoup de choses similaires avec notre mariage aujourd'hui. Le désir d'être heureux, que ce bonheur dure et que la fête se poursuive. Donc, on va voir trois points dans ce passage. Un, la joie que nous recherchons tous, la joie supérieure que Jésus offre, et trois, la façon dont nous pouvons la recevoir. Donc, la joie que nous recherchons tous, la joie supérieure que Jésus offre, et la façon dont nous pouvons la recevoir. Alors, la joie que nous recherchons tous. Jean nous dit qu'il y avait une célébration de mariage et que Marie était là. Verset 2 dit que Jésus était aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Pour nous, la célébration d'un mariage dure combien de jours? Ben, normalement, un jour. Peut-être un week-end si on passe par la mairie samedi, peut-être vendredi et puis samedi, c'est la bénédiction dans une église. Mais au maximum, un week-end, 2 jours. Mais à l'époque de Jésus, ça a duré combien de temps? Ben, une semaine. En fait, c'était très long. Imaginez, si ça nous stresse d'organiser un mariage qui dure un jour, imaginez la charge de travail pour la personne qui doit organiser une fête qui va durer une semaine. Et qui doit faire ça? Le marié. Fou. Donc ça pèse. Non seulement ça doit être vraiment un jour de joie pour lui, mais ça, c'est tout un tas de responsabilités qui pèsent sur lui. Nous voulons que tout se passe bien, nous ne voulons pas que les choses tournent mal, mais Jean nous dit qu'immédiatement il y a un problème. Le vin est en train de s'épuiser. Verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et il faut savoir que dans la Bible, le vin est un symbole de joie. Par exemple, le psaume 104, verset 15 dit que Dieu a donné le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin est l'un des bons cadeaux de Dieu qu'il convient d'apprécier de manière responsable. Le vin est là pour prolonger et accentuer la joie du moment. Alors, quand Marie dit ils n'ont pas de vin, c'est comme elle disait il n'y a plus de joie. Pas de vin, pas de joie. La joie s'arrête, la joie s'épuise. La fête va se terminer, les amis et la famille vont partir, le marié va être couvert de honte. Mais quel faux pas! Le vin représente la joie. Et le vin est en train de s'épuiser. Donc réfléchissez à ce que cela nous apprend déjà sur la joie. Rappelez-vous que la célébration d'un mariage dure une semaine. Ils ont déjà passé plusieurs jours à boire et à faire la fête. Et pourtant, ce n'est pas assez. Ils ont toujours soif de plus. Ils organisent cette fête pour être heureux. Ils ont déjà beaucoup bu. Et pourtant, ils ne sont toujours pas satisfaits après une semaine de fête. Notre désir de joie et de bonheur est si profond que même une semaine entière ne suffit pas à nous combler. Avez-vous remarqué la même chose dans votre vie? Peut-être vous avez commencé un nouveau sport et au début, vous étiez passionné par ce sport. Moi, il y a quelques années, j'ai commencé à jouer au volleyball. Et la première année, je me suis amusé à fond. Chaque semaine, j'avais hâte de jouer dans ce club-là. Bon, le loisir, ce n'était pas sérieux. Mais je m'amusais à fond. Mais après 2 ans, oui, ça va, c'était bon pour la santé, c'est bien de faire du sport. Après la troisième, quatrième année, en fait, je m'ennuyais un peu. J'ai un peu perdu la passion pour le volley. Du coup, je cherchais une autre activité sportive à faire. Mais la vie est comme ça. Peut-être c'était votre travail. Peut-être c'était une promotion que vous vouliez depuis quelques années. Et enfin, vous avez reçu cette promotion. Est-ce que ça vous suffit? Ben non, après un mois, après un an, en fait, la joie qui était liée à ça s'efface. Au début, cela vous semble excitant, cela vous donne la joie, mais bientôt vous commencez à vous en désintéresser et vous n'éprouvez plus la même joie. Vous avez besoin de plus en plus de choses. Donc la question qui vous concerne, qui me concerne, où cherchez-vous le bonheur? Parce que sachez ceci, vous retournerez le verre et il sera vide. Vous retournerez le verre et il sera vide. Sachez que tout ce qui vous rend heureux s'épuisera. Un jour, le vin s'épuisera. Tout ce que vous possédez dans le monde sera épuisé. Le réservoir d'essence de votre voiture s'épuise. Votre compte bancaire s'épuise. Votre temps s'épuise. Votre beauté, votre jeunesse s'évanouissent. Votre énergie s'épuise, votre santé s'épuise, votre patience envers les gens, envers votre famille, envers vos enfants s'épuise. Et oui, même après le mariage, après le plus beau jour de votre vie, parfois nous voyons que l'amour commence à s'épuiser. Parfois nous voyons que notre passion pour la vie s'épuise, la joie de ce monde s'épuise. Et vous avez peut-être déjà l'impression que votre joie est épuisée, que votre joie est déjà en faillite. Nous avons un besoin, un désir profond de bonheur, mais là où que nous cherchions la joie dans cette vie, elle s'épuisera. Nous avons un profond désir d'être heureux et pourtant rien de ce monde ne peut le satisfaire. Alors cela signifie que la source de notre bonheur ne doit pas venir de ce monde, mais de l'extérieur, vers celui qui est la parole, s'est fait homme. Et c'est pourquoi nous devons nous tourner vers Jésus. Le deuxième point, la joie supérieure que Jésus offre. Marie parle à Jésus de ce problème et Jésus lui répond au verset 4, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Peut-être ces paroles vous choquent, on va revenir. Plus tard sur le sens, on va continuer l'histoire, pourquoi Jésus parle à sa mère de cette manière, bon, on va en découvrir plus tard. Continuons avec verset 5, Marie donne des instructions aux serviteurs pour qu'ils fassent tout ce que Jésus leur demande. Et puis verset 6, Jésus nous dit qu'il y avait 6 jarres de pierre qui étaient normalement utilisées à des fins de purification et que chacune pouvait contenir une centaine de litres. Et cela représente environ 600 litres d'eau ou de vin. Alors versets 7 et 8, Jésus leur donne deux instructions. Remplissez ces jarres d'eau. L'auteur prend donc l'évangile de Jean. Jean prend soin de préciser que ces jarres n'ont pas été remplies un peu ou à moitié, mais à ras-bord. Jésus leur dit de puiser et d'en apporter à l'organisateur du mariage. Donc, soit il y a eu beaucoup d'invités, ou soit Jésus est sur le point de faire un miracle qui leur donnera une surabondance de vin. Regardez ce que Jésus fait ici lors de ce mariage. Eux, les invités, la famille, les amis, se sont confrontés à un vide, à un manque de vin, plus de joie. Et que fait Jésus ici? Est-ce que Jésus leur donne un peu de vin ou un demi-verre? Mais non, il leur donne la plénitude. Il comble leur vide, il comble leur manque, il remplit leur vide pour que leur vin ou leur joie déborde. Et comment Jésus peut-il faire cela? Comment Jésus peut-il offrir la plénitude de la joie? Parce que rappelez-vous qui il est. Il est la parole incarné, le Fils de Dieu en qui se trouve la plénitude de la grâce et de la vérité. Jésus montrait que la joie qu'il donne n'est pas juste un petit peu, mais de l'abondance. Notre vie, notre désir d'être heureux n'est comblé que par la plénitude de Jésus. Et il se peut que ces 6 jarres utilisées pour la purification représentent une autre chose. Il se peut qu'elles représentent la purification dans la loi de Moïse, mais qu'il ne pouvait laver qu'une personne à l'extérieur. Donc Jean a déjà dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ces jarres peuvent donc être une référence au sang de Jésus qui nous purifie à un niveau plus profond que le lavage extérieur. Le sang du Christ représenté par le vin que nous buvons fait ce que l'Ancien Testament n'a jamais pu faire. Il nettoie non seulement notre extérieur, mais aussi notre intérieur, notre cœur. Mes amis, on pourrait penser que la foi chrétienne est une religion sans joie, mais c'est faux. Jésus nous montre qu'il y a une joie abondante en sa présence. La foi en Christ n'a jamais été destinée à nous rendre tristes ou à nous affliger, mais à accroître notre joie et notre bonheur. Verset 9, l'auteur nous dit que l'organisateur a goûté l'eau changée en vin. Il ne sait pas d'où vient ce vin et dit au marié, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors ce qu'il dit est assez clair. Normalement, vous servez le meilleur vin en premier lorsque vos sens ne sont pas émoussés par l'alcool. Mais plus vous buvez, moins votre goût peut apprécier le bon vin. Alors, servez du vin moins bon vers la fin. Donc, ainsi, non seulement Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin, non seulement il a créé une surabondance, mais il a également produit un vin de qualité supérieure. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Rappelez-vous que le vin est lié à la joie. Jésus est le Seigneur de la création. Il est le créateur de toutes les variétés de raisins. Il n'est donc pas surprenant qu'il puisse produire le meilleur vin, meilleur que le vin du Médoc, du Pessac, de Saint-Emilion. L'histoire de la transformation de l'eau en vin nous montre que la joie que Jésus nous donne est permanente. Elle est durable, elle est profonde, elle ne s'épuisera jamais, elle est bien plus supérieure à tout ce qu'on peut goûter dans ce monde. La joie qu'offre le monde n'est pas comparable à la joie qu'offre Jésus. Mes amis, nous voulons tous que la fête dure. Nous ne voulons pas que la joie s'arrête. Et ce que Jésus nous donne, c'est une joie durable, une joie profonde, une joie surnaturelle. Jésus peut transformer l'eau en vin, et cela implique aussi qu'il peut transformer la tristesse en joie, le deuil en allégresse et le vide en plénitude. Alors le troisième point, la façon dont nous pouvons la recevoir. Verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Dans les 12 premiers chapitres de l'évangile de Jean, il y a 7 signes qui nous montrent l'identité et la gloire de Jésus. Jean nous dit que c'est le premier des signes miraculeux qui manifeste la gloire de Jésus. Et quel est l'intérêt de manifester la gloire de Jésus? À susciter la foi en Jésus. Et ses disciples crurent en lui. La foi, c'est ce qui nous unit à la joie que donne Jésus. Mais comment? Revenez au verset 4 et regardez comment Jésus répond à Marie lorsqu'elle lui dit qu'il n'y a plus de vin. Jésus répond, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Cela peut sembler irrespectueux, mais cela montre que Jésus n'est pas sous l'autorité de sa mère. On n'est plus sous l'autorité de sa mère, comme l'est un enfant. Il ne suit pas le programme, l'agenda de ses parents, mais celui de son Père céleste. C'est pourquoi Jésus dit que mon heure n'est pas encore venue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que mon heure n'est pas encore venue? Bon, si vous connaissez un peu l'évangile de Jean, l'heure, ce mot, l'heure n'est pas encore venue, c'est une référence à la crucifixion, à la résurrection et à l'ascension de Jésus auprès de son Père. La mission ultime de Jésus n'est pas seulement de faire durer notre petite fête. Sa mission est de nous donner la vie éternelle. Et il rappelle à sa mère de ne pas le distraire de sa mission. Jésus n'est pas venu dans le monde juste pour transformer l'eau en vin, mais pour transformer les cœurs durs en cœurs doux, pour transformer les pécheurs en enfants de Dieu, pour transformer les gens vides de ce monde en gens pleins de la joie en Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que son heure n'est pas encore venue. Il ne peut pas avoir la joie, la plénitude de la joie véritable et parfaite lorsqu'il n'est pas encore passé par la croix. Donc si vous voulez faire l'expérience de la vie et de la joie en Jésus, vous devez comprendre que son programme passe avant le vôtre. Jésus n'est pas venu simplement pour que votre fête personnelle se poursuive. Alors pourquoi Jésus transforme-t-il l'eau en vin lors de ce mariage? Pour nous faire découvrir le mariage ultime, la fête suprême qui aura lieu pour tous ceux qui sont unis à Jésus par la foi. Ce miracle nous donne un avant-goût de ce qui nous attend. Apocalypse 21 dit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant avait disparu. Mes amis, c'est ça le but ultime, c'est ça la finalité du mariage. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle notre joie, oui, on peut avoir la joie en Jésus dès maintenant, aujourd'hui, mais la plénitude de cette joie, c'est lorsque Jésus revient pour inaugurer ce mariage incroyable entre Christ et l'Église. Et mes amis, ça c'est une vérité tellement importante. Que vous soyez marié ou que vous soyez dans le célibat. Si vous êtes marié, parfois on peut avoir les attentes que, ah oui, ça doit résoudre tous mes problèmes. Ça doit résoudre toutes mes solitudes, mes moments de déprime. Et bien sûr, j'imagine si vous êtes là, marié, vous savez que, en fait, le mariage ne résout pas ce problème-là. Bah, peut-être ça peut aider dans certains domaines, mais parfois ça crée des problèmes dans d'autres domaines. Et pour nous qui sommes dans le célibat, comme moi, parfois on se dit que, mince, est-ce que je suis en train de me priver de quelque chose de bon? Si je ne me marie pas, est-ce que je vais rater quelque chose d'essentiel pour ma vie? Et surtout dans notre époque, dans notre culture, qui dit que le véritable épanouissement, c'est d'exprimer vos désirs sexuels, être épanoui sexuellement. Et si on expérimente ça, on est en train de rater notre vie. Mais mes amis, c'est vraiment faux. Pourquoi? Ben, imaginez que vous aimez les films, vous aimez aller au cinéma. Il y a un film en particulier que vous aimez réellement regarder. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut regarder un film? Avant que le film sorte, on va regarder la bande-annonce. Mais est-ce que ça suffit, la bande-annonce? Si on regarde la bande-annonce, est-ce qu'on se dit, ah oui, c'est bon, j'ai plus besoin de regarder le film? Ben non, bien sûr que non. On veut voir le film en entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter notre place et notre place va être réservée parce que ça, c'est le moment clé de vraiment profiter du film. Alors, dans cette vie, le mariage, c'est comme la bande-annonce. C'est un aperçu qui donne à la réalité ultime du mariage à la fin de temps. Et en fait, si on rate la bande-annonce, est-ce que c'est grave? Pas du tout. Parce qu'en fait, si vous êtes unis à Christ par la foi, votre place est déjà réservée au mariage ultime à la fin du temps. J'ai jamais rencontré une personne qui a pleuré le fait qu'il a raté la bande-annonce. Et peut-être les gens vont pleurer le fait qu'ils ont raté le film au cinéma. Et ça, c'est la vraie tristesse, c'est de rater le mariage ultime et final en Christ, entre Christ et son Église. Donc, comme un auteur a dit, le mariage montre le modèle de l'Évangile. Mais le célibat en Christ montre la suffisance de l'évangile. Vous voyez ça? Alors le point, la foi en Jésus élevé sur la croix, Jésus qui nous rachète afin que nous puissions être son épouse, est la réalité ultime de la vie. Toute l'histoire va se finir dans un mariage. La Bible a commencé avec un mariage. Dans les premières pages de la Bible, ça commence avec un mariage dans le jardin d'Éden. Et ça va se terminer dans un mariage, dans le nouveau Jérusalem qui descend du ciel, la ville qui est un jardin, et le peuple de Dieu, uni en Christ, uni à Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Si nous voulons faire l'expérience de la joie en Christ, on doit être uni à Jésus par la foi. La deuxième chose que nous devons faire pour recevoir cette joie se trouve au verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. En d'autres termes, si vous voulez trouver la joie dans votre vie, vous devez faire ce que Jésus dit. En fait, c'est aussi simple que ça. Vous devez faire ce que Jésus dit. La foi, c'est obéir à ce que Jésus dit. Jésus n'est pas un simple invité aux noces. Regardez les noms qui ont été donnés à Jésus jusqu'à présent dans l'évangile de Jean. Il est la parole de Dieu incarné. Il a créé tout l'univers. Il est la lumière venue dans le monde. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le Rabbi, le Maître. Il est le Messie, le Christ. Il est le Roi. Jésus n'est pas un simple invité. Jésus est le Maître de l'univers. Il faut faire ce que le Roi dit. La foi en Jésus, c'est lui obéir en tant que Roi. La foi qui fait l'expérience de la joie en Jésus est une foi qui obéit à ses paroles. Parce que réfléchissez, si les serviteurs n'avaient pas écouté Jésus, s'ils n'avaient pas rempli les jars d'eau, s'ils n'avaient pas apporté l'eau à l'organisateur de la fête, ils n'auraient jamais connu la transformation de l'eau en vin. Ils n'auraient jamais connu la joie d'un meilleur vin. La foi, c'est l'obéissance aux paroles de Jésus qui nous conduit, vous et moi, à nous réjouir en lui maintenant, mais aussi à anticiper la plénitude de la joie à venir. Donc, c'est ça qu'apprennent tous les vrais disciples de Jésus. Parce que si vous êtes comme moi, nous savons tous qu'obéir à Jésus, ce n'est pas toujours facile. Certes, il y a certains domaines dans notre vie, on dit, c'est comme une expression en français, avec les doigts dans le nez. Ce n'est pas trop difficile. Mais il y a d'autres domaines dans notre vie qui sont parfois très difficiles. Et parfois, on se pose la question, mais est-ce que je vais être réellement heureux si je me confie ma vie complètement à Jésus? Est-ce que je vais être réellement heureux si j'écoute Jésus dans tous les domaines de ma vie? Et la réponse est oui. La réponse est oui, parce que de la même manière que Jésus transforme l'eau en vin, Jésus transforme le devoir de lui obéir à un délice à lui obéir. Et en fait, je vous donne le défi. Si vous ne me croyez pas, essayez-le réellement. Regardez ce domaine, cet obstacle dans votre vie qui vous empêche vraiment à vous plier le genou devant Jésus parce que vous ne voulez pas vous confier entièrement votre vie à Jésus. Essayez-le. Essayez de obéir à Jésus dans ce domaine. Et voyez si ça vous apporte réellement la joie. Parce que en tout cas de mon côté, je sais très bien maintenant, il n'y a même pas un débat dans ma tête, je suis convaincu, quand je n'écoute pas Jésus, c'est la misère. C'est toujours la misère. C'est toujours cette lutte lorsqu'on croit au mensonge du péché qui promet le bonheur, mais qui nous rend esclaves à ses désirs. Mais plus par le Saint-Esprit, on obéit à Jésus, on découvre cette joie surprenante et on se dit, ah tiens, en fait c'est vraiment, ça me fait du bien de vraiment écouter ce que Jésus dit. Donc Jésus transforme l'eau en vin, il transforme aussi le devoir en délice. Alors la conclusion, nous aspirons tous à une joie profonde et durable, mais rien de ce monde ne peut satisfaire ce soif, ce vide en nous. Nous devons donc conclure que notre bonheur ultime ne se trouve pas dans les choses de ce monde, mais en dehors de ce monde, en Dieu, en la personne de Jésus qui est entré dans notre monde, la parole fait chair, qui nous offre sa joie abondante, qui comble notre vide et nous remplit de sa plénitude de joie et de grâce. Donc, mes amis, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Prions. Dieu notre Père, merci pour ce passage, merci pour ce miracle, parce que ce n'est pas un miracle juste là pour nous impressionner, nous qui aimons peut-être le vin, mais c'est un miracle qui nous montre que tout ce que nous cherchons, la joie dans cette vie, va s'épuisera. Mais en Jésus seul, que nous pouvons trouver une joie permanente, durable et profonde. Et c'est ça grâce à la croix de Jésus, parce que Jésus nous a rachetés par son sang précieux, afin que nous puissions lui appartenir pour toujours, comme, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ. Et c'est ce mariage-là, cette réalité ultime par laquelle tout l'univers se dirige. Et Seigneur, nous ne voulons pas être un simple invité à ce mariage, nous voulons être participants. Et c'est seulement lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, lorsque nous sommes unis à Jésus, que nous pouvons être sûrs et certains que notre place est réservée pour cette réalité ultime que tout l'univers va voir un jour, pour la plus grande joie de ceux qui sont unis à Jésus, mais aussi pour la plus grande tristesse pour ceux qui ne sont pas unis à Jésus. Donc nous prions en tant qu'Église que chaque personne puisse connaître cette réalité d'être unie à Jésus au lieu d'être séparée éternellement de Jésus. Amen.